Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes. Souffre, douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Au coude à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou blanche neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus, dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, pu faire des hommes, pas des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insulté si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui ont pas le temps. C'est tout pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait frangine, on n'aurait pas perdu son temps. Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
Anne-Sylvestre Frangine, que vous connaissez bien sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, la radio de la Fédération anarchiste, et vous êtes dans Remue Méninges féministe comme tous les mardis de 12h30 à 14h30. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Elisabeth.
Bonjour Catherine, bonjour Violetta.
Bonjour Elisabeth.
Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 septembre 2024. Au menu de l'émission, nous allons t'interviewer, Violetta, sur ton livre Clitoris 4U, une interview en français. On va te demander évidemment d'expliquer le titre, comment t'es venue l'idée de ce livre et puis ce qu'il y a dedans. Mais auparavant, et ensuite on aura des informations militantes avec notamment des annonces de manifestations, des annonces de spectacles, de parutions, de documentaires. On a même un jeu à vous proposer. Et pour commencer, Catherine veut faire un fémage à une chanteuse qu'on aime beaucoup et qui nous a quittés au mois d'août dernier, Catherine Ribeiro.
Alors, Catherine n'est pas encore prête, enfin, pas Catherine Ribeiro, mais moi. Et je préfère plutôt qu'on le fasse après l'interview, dans une heure. Hein, parce que j'ai encore le matériel encore à installer un peu du côté du son.
Pas de problème.
Ok, merci.
On s'adapte. Et donc, Violetta, vraiment bienvenue à Radio Libertaire. Je suis ravie de te rencontrer parce que vraiment, j'étais très intéressée par ce livre que tu as écrit et édité. Il est illustré par Javiera Hernandez. Donc, je voudrais dans un premier temps que tu te présentes et que tu dises comment t'es venue l'idée de faire ce livre.
Et bon, c'est moi aussi l'illustratrice, mais moi, je suis l'illustratrice sous le monde des dessins anatomiques. Et moi, j'ai fait les aquarelles à la main. Et en fait, Javiera a transformé mes dessins anatomiques en dessins digitaux. Et puis, c'est elle qui a fait tous les dessins qui sont sympas, tous les fonds, toute la partie est drôle et jolie du livre.
Et donc, voilà un livre qui va nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes, puisque le clitoris a été un des organes, peut-être même le seul organe, oublié à ce point dans le corps humain, et cela depuis des siècles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu te présentes comme étant sexologue et thérapeute. Est-ce que tu pourrais dire en quoi consiste la sexologie et qu'est-ce que c'est être sexologue ?
D'accord. D'abord, je me présente comme conseillère en sexologie. Et pourquoi conseillère ? Parce que pour moi, en France, il n'y a pas la protection du mot. Mais pour moi, sexologue devrait être seulement les médecins sexologues qui font cette spécialisation. Et puis, il devrait avoir des sexothérapeutes qui sont les psychologues. Et puis, un troisième lieu, il y aurait des conseillères comme moi qui sont des conseillères qui vont passer les informations. C'est plutôt l'axe éducation. Alors, il y a d'autres pays comme le Canada où on trouve bien toute cette terminologie bien définie. Mais en France encore, malheureusement, il n'y a pas une protection du mot. Donc, ça s'est fait un grand amalgame entre les médecins, les psychologues et les personnes qui sont plutôt axées éducation. Donc, je suis plutôt côté éducation, conseillère.
D'accord. Et donc, tu rencontres des personnes qui éprouvent le besoin de parler de leur sexualité, de leur, et qui ont besoin d'être aidées pour la vivre mieux, j'imagine.
Et mon cabinet est spécialisé sous le monde pour les suivis des femmes qui ont subi des traumas sexuels. Alors, la plupart sont des viols, inceste, mutilation génitale, mais il y a aussi violences obstétricales et gynécologiques. Il arrive parfois d'autres traumas de type sexuel dont on ne pense pas souvent, qui sont par exemple les deuils périnatales. Parfois l'accouchement peut être fortement traumatique, avec ou sans la mort du bébé. Et puis il y a d'autres traumas qu'on ne pense pas, mais c'est aussi très traumatique. Il y a toutes les femmes qui n'ont pas eu une éducation sur la menstruation et que lorsque la ménarche arrive, ils pensent vraiment qu'ils sont en train de mourir. Et qui les donne une perception du propre corps et de la vulve comme un lieu de terreur, en fait.
Et de danger.
Et des dangers.
Et du coup, tu reçois des personnes plutôt en individuel, en entretien individuel, ou tu fais aussi des groupes de parole ou...
Et il m'est arrivé de faire des groupes de parole pour des femmes excisées, pour des femmes violées, incestées, aussi pour des personnes qui ont subi la cyberviolence. Et qu'on ne l'associe pas à la violence sexuelle, mais en fait, au niveau de la santé, elle peut affecter aussi la sexualité, parce qu'il y a une partie de la sexualité qui n'est pas liée à la vulve, mais liée aux émotions, à la représentation du corps, de soi-même. Donc, par exemple, toutes les personnes qui ont été touchées par le travail de Stop Fisha, qui est une association qui travaille contre le cybersexisme, ils savent que recevoir des menaces, des viols, et dans un grand nombre, et c'est aussi traumatisante qu'avoir d'autres types de violences comme une agression sexuelle dans les métros.
Mais y compris, du coup, on touche là la question de l'être, des êtres humains donc des femmes dans leur ensemble, à savoir qu'on n'est pas que des corps, on n'est pas que des esprits, on est un corps avec un esprit, avec aussi des émotions, et que c'est cet ensemble qui nous rend humains, et qu'ils sont interdépendants les uns des autres, et qu'on peut, bien souvent, on pense les choses de façon coupée, on sépare complètement le corps des émotions, les stéréotypes liés au genre, on dit souvent que les hommes, ils subissent pas leurs émotions, que c'est les femmes qui sont émotives et tout ça, ce qui est complètement faux, les hommes sont aussi émotifs que les femmes, mais ils sont dressés, j'ai envie de dire, plus qu'éduqués, dressés à ne pas manifester leurs émotions. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Et que ça interagit avec leur physique, en fait.
Oui, exactement. Et pour la sexualité, c'est malheureusement l'éducation avec plein de stéréotypes, crée aussi beaucoup de souffrances. Et pour les hommes, la souffrance, comme tu disais, c'est cette inhibition émotionnelle qui ne se permet pas d'être vulnérable, de faire des deuils, d'exprimer la peur, l'insécurité, et la crainte, et l'angoisse, l'anxiété. Et plutôt aux femmes, il y a une autre émotion qui leur est interdite, qui est le désir sexuel. Et les désirs sexuels et l'excitation sexuelle, et évidemment, sont multifactoriels. Il y a une partie éducative, culturelle, mais c'est aussi émotionnel. Et parce qu'ils sont liés à la respiration. Il y a une respiration du désir sexuel, il y a une respiration de l'excitation sexuelle. Et quand l'excitation sexuelle monte jusqu'à l'orgasme, c'est le rythme respiratoire qui change. Donc ça se comporte comme n'importe quelle autre émotion. Et c'est ça qui... Voilà, pour les hommes et pour les femmes, on a vraiment cloisonné qu'est-ce que c'est interdit comme émotion pour chacun, et tout le monde est perdant, en fait.
Oui, tout à fait. Et tout le monde est malheureux.
Oui.
Et donc, c'est donc ce travail de conseillère en sexologie qui t'a amené à t'intéresser au clitoris, j'imagine.
Et en fait, j'étais en train d'animer un groupe de paroles des femmes violées pour l'association En Parler, l'association qui a été créée pour Sandrine Rousseau. Et on était à Paris, et dans les groupes de paroles, il y a une fille qui dit, en plus d'avoir subi ceci, cela, et j'ai subi aussi l'excision. Et je n'avais jamais entendu les mots. Et moi, j'ai co-animé ces groupes de paroles, et j'ai dû lui dire que j'étais désolée, mais je ne savais pas de quoi elle était en train de parler. Alors, tout le monde savait que je n'avais pas grandi en France, et donc je pense que c'est pour ça que je n'avais jamais entendu ces mots. Et elle était très pédagogue, elle a expliqué à tout le monde ce que c'était l'excision. Et je savais que c'était une souffrance supplémentaire. Elle expliquait à une victime de quoi il s'agit, le trauma qu'il a vécu. Et puis après, elle était très pédagogue avec moi. On a fait des rendez-vous en un café Paris 18e. Il m'a expliqué plein de choses. Et sur les idées reçues autour de l'excision, comment ça parle dans la famille, et comment on découvre ça. Et en fait, je me suis dit, je vais savoir exactement qu'est-ce qu'on a coupé et qu'est-ce que ça fait. Et à partir de là, et grâce à elle, en fait, je n'ai pas lâché le sujet du clitoris. Donc, je suis rentrée au clitoris.
Par son absence.
Par la mutilation.
Par la mutilation.
Génitale, voilà. Ouais. Et c'est pour ça qu'après, le livre est devenu très technique, parce que ma question, ce n'était pas qu'est-ce qui se passe dans l'orgasme, ma question est qu'est-ce qu'on coupe. Donc, je voulais connaître vraiment les nerfs, les artères, et les veines et les tissus, qu'est-ce qu'on coupe.
Et c'est impressionnant parce qu'en fait, c'est un organe qui est très complexe et qui comprend, on va vous expliquer dans la suite de l'émission, plusieurs parties, beaucoup de nerfs. C'est l'organe du corps humain qui a le plus de nerfs qui passent par lui, hein, ce que j'ai vu. Et vraiment, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça déconstruit plein d'idées reçues qu'on a sur la sexualité féminine. Et donc, on va y revenir après une petite pause musicale.
De sa nuit de noces, qu'une toute jeune mariée fut renvoyée, la pauvre gosse, comme une marchandise avariée, car elle entrait dans une famille où les hommes placent leur honneur entre les jambes de leur fille. Il ferait mieux de la mettre ailleurs. On a le droit de faire l'amour, l'amour, l'amour. On a le droit de faire l'amour avant d'avoir la barre au doigt. On a le droit de faire l'amour avant d'avoir la bague au doigt. Or le mari, d'après ses dires, jugeait qu'il était essentiel qu'elle n'eût jamais pris de plaisir, qu'elle fût pour lui restée pucelle. Et l'amour qu'il avait pour elle en un instant s'est évanoui, et il a renvoyé la belle à laquelle il avait dit oui. Avait-elle droit, avait-elle droit de faire l'amour, l'amour, l'amour? Avait-elle droit de faire l'amour avant d'avoir la bague au doigt? Avait-elle droit de faire l'amour avant d'avoir la bague au doigt? Certains pensent qu'elle aurait dû dire avant le mariage sous son passé qu'elle n'aurait pas dû lui mentir au sujet de sa virginité. Mais ça veut-il qu'au nom de l'honneur des filles sont assassinées? Il y a des crimes qui font horreur pour cause de non-virginité. Elles ont le droit de faire l'amour, l'amour, l'amour. Ont-elles le droit de faire l'amour? l'amour avant d'avoir la barbe au doigt. Ont-elles le droit de faire l'amour avant d'avoir la barbe au doigt? Il s'est trouvé un juge en France, au pays de la liberté, pour décider en toute conscience que le mariage devait être annulé. A-t-on cherché des témoignages pour prouver que de son côté, le mari lui-même, avant le mariage, le mari aussi avait fauté? Avait-il droit de faire l'amour, l'amour, l'amour? Avait-il droit de faire l'amour avant d'avoir la bague au doigt? Avait-il droit de faire l'amour avant d'avoir la bague au doigt? Fut bien déçue la jeune femme, voir que pour lui elle n'était rien, moins que la petite membrane qu'il considérait comme son bien. Et ce jugement qui les sépare et que nous devons contester la débarrasse d'un connard et lui rend toute sa liberté. Elle a le droit de faire l'amour, l'amour, l'amour. Elle a le droit de faire l'amour car elle n'a plus la bague au doigt. Elle a le droit de faire l'amour car elle n'a plus la bague au doigt. Il nous a fallu lutter fort, il nous a fallu conquérir le droit de disposer de notre corps, le droit de connaître le plaisir. S'il est possible, selon le droit, qu'il y ait de telles iniquités, c'est qu'il faut modifier la loi et surtout les mentalités. On a le droit de faire l'amour, l'amour, l'amour. On a le droit de faire l'amour avant d'avoir la barbe au doigt. On a le droit de faire l'amour, il faut bien vite changer la loi.
Claude Michel qui nous chantait « Hymen ». Claude Michel qui est parti, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, tranquille dans son sommeil, le 17 décembre 2023. Donc on n'aura plus le plaisir de l'entendre dans ses nombreux concerts improvisés comme ça, comme elle faisait avec son accordéon. Toujours Romy Méninge, féministe, jusqu'à 14h30. En votre compagnie sur Radio Libertaire 89.4 et dans le monde via Internet.
Et donc, nous sommes toujours en compagnie de Violetta Belluccia qui a écrit et illustré un livre qui s'appelle Clitoris 4U, une interview en français. En fait, ce sous-titre donne la forme du livre où tu fais une interview à Madame Clitoris. Et je trouve cette forme très intéressante. Je vais la reprendre d'ailleurs, parce que je trouve que c'est vraiment une bonne façon d'entrer dans le sujet. Et ce que j'ai trouvé amusant aussi, c'est que tu dises une clitoris.
Oui.
Pourquoi as-tu choisi de féminiser ce mot-là?
Et déjà, en français, c'est quelque chose un peu révolutionnaire, mais pas en espagnol. En espagnol, il y a des textes dans lesquels on entend dire corps au féminin et aussi clitoris au féminin, donc una clitoris. Et il y a un livre de Nuria Vives, c'est une spécialiste dans l'accouchement physiologique pour que les femmes puissent comprendre comment ça marche les muscles, le réflexe d'expulsion du bébé et comment la position, donc debout ou penchée vers l'avant, c'est une position naturelle pour expulser, que ce soit les matières fécales ou les bébés, parce que c'est à peu près le même angle, hein, c'est la même, et, oui, c'est le même angle pour l'expulsion. Et Nuria Vives a fait un livre sur les périnées et donc il est mentionné une clitoris dans un petit texte et un petit paragraphe. Et j'ai trouvé que c'était intéressant et qu'on pense et autrement. Et pour moi, la meilleure manière de dire, je veux qu'on imagine les clitoris autrement. Je dis comment je le fais. Bon, je le mets au féminin et c'est un personnage. Et voilà, c'est quelque chose d'imaginaire. Et c'est plus proche comme ça l'anatomie. Et c'est ça que je voulais, que tout le monde sache que l'anatomie est à la portée de tout le monde. Ça peut être présenté d'une manière agréable, drôle, amusante.
Oui. Alors c'est vrai que ça m'amuse parce qu'on reçoit de temps en temps dans cette émission une actrice de théâtre féministe radicale qui s'appelle Tiffany Day, et qui fait un spectacle qui s'appelle La Péril Mortelle, et où elle ne parle qu'avec des mots mis au féminin. Et moi, je trouve ça extraordinaire de gymnastique mentale pour montrer que c'est possible que ce soit le féminin universel ou la féminine universelle. Et c'est même moi qui suis féministe depuis des années, même moi j'ai du mal de parler au féminin universel, de ne parler que au féminin, déjà à la féminine je devrais dire. Et c'est une gymnastique intellectuelle qui montre que c'est construit, qu'on a été habitué d'une certaine façon, mais qu'on peut essayer de se déshabituer, on peut se questionner sur, par exemple, le genre des mots. Et moi je trouve le pénis, la clitoris, ça fait les deux genres, quoi, masculin, féminin.
Oui, c'est vrai que dans le livre, j'ai essayé d'être inclusive, de dire que, et même par exemple dans le 12e livre qu'ils sont en train de rédiger maintenant, je parle de l'appareil reproducteur clitoridien, pour dire qu'il s'organise autour des clitoris, parce que c'est un terme descriptif. Donc je n'utilise pas appareil reproducteur féminin. Pourquoi ? Parce que pour moi, dans l'anatomie, c'est bien travailler dans la description. Par exemple, trompe utérine, pas trompe de Fallope. Et glande vestibulaire, pas glande de Bartholin.
Donc, qui rend dommage à chaque fois des hommes, en plus.
En plus.
C'est des noms d'hommes.
Donc, je pense que dans l'anatomie, c'est bien la description, mais je suis tout à fait admirative du travail de Tiffany. Et j'admire énormément tout ce qu'elle fait. Et je trouve que ça nous fait vraiment avancer toute la société. Et elle porte toute seule dans ses épaules ces grands changements culturels, c'est-à-dire les femmes sont invisibilisées constamment et personne n'est gagnante en fait avec ça.
Tout à fait. Et donc on voit tout ce travail de féminisation de la langue qui est porté par les féministes depuis des années, qui vient encore plus fort, quoi, en prenant des mots comme la clitoris, c'est vraiment intéressant, quoi. C'est d'essayer de s'obliger à parler comme ça pour montrer qu'on peut changer.
Et la langue en France, je pense que de son histoire, où on a voulu vraiment mettre sous silence toutes les langues régionales, et je vois bien la violence ici, jusqu'à il n'y a pas longtemps, une dizaine d'années, et les personnes pouvaient recevoir les courriers à Madame et puis le nom de Monsieur. Madame Roberto Kahn. Et ça, arrivé au Chili, par exemple, pour la génération de mon arrière-grand-mère. Et ça s'arrêtait là, avec mon arrière-grand-mère. Et c'est impensable, ça, depuis. Donc, je vois qu'en France, j'entends, au moins parce que ce n'est pas ma langue maternelle, j'entends une violence énorme et qui est très institutionnel.
Oui, et qui est du coup intégré par tout le monde, femmes et hommes. Et même des femmes ne remettent pas cette question-là en cause. Quand on voit le nombre de femmes qui prennent le nom de leur mari, moi j'ai des proches de moi, j'ai une nièce qui s'est mariée, elle a pris le nom de son mari, ils font famille. Alors c'est vrai qu'à l'école, pour les enfants, c'est plus facile d'avoir papa, maman, les enfants qui ont le même nom et tout ça. Mais moi, ça me choque. Et là, j'ai refait ma carte d'identité l'été dernier, en 2023, et j'ai fait ajouter le nom de naissance de ma mère au nom de mon père, et j'ai changé mon nom de famille en nom d'usage, ce que la loi m'autorise à faire, et je suis ravie de porter et le nom de ma mère et le nom de mon père. Je trouve que cette façon de leur rendre fémage et hommage, parce que moi je suis contente des parents que j'ai eus, en gros, même s'il y a eu des débats et des fâcheries, etc. C'est une famille normale, quoi. Et je trouve ça bien d'essayer de montrer que oui, on a une histoire, et dans cette histoire, il n'y a pas que le monsieur qui compte.
Voilà, en Amérique latine, il y a les deux noms des familles.
Toujours, oui, voilà, depuis longtemps. Depuis longtemps.
Et en tout cas pour les clitoris, j'essayais de aussi savoir que il y a deux pages qui sont les plus politiques, on va dire, dans lesquelles les deux illustratrices les posent la question, donc à ces personnages, est-ce que ça dépend de la vulve que soit une fille. Et comme c'est le personnage qui parle, j'essayais de présenter des éléments de réflexion et sans prendre parti. C'est-à-dire dire que d'une part, pour certaines personnes, c'est oui, notamment le féminisme radical. Si on a une vulve, on a un clitoris, donc on est une femme. Mais c'est bien de savoir qu'il y a une autre partie de la population mondiale, que c'est 136 millions, que c'est pas rien. Hein, ont des appareils reproducteurs ou des un matériel génétique ou un développement endocrinien qui ne permet pas de faire une ligne et de dire homme ou femme. C'est, et 136 millions, je pense qu'il faut les prendre en compte. Donc, dire que de manière anatomique, pas toute l'humanité est binaire. Et d'autre part, il y a certaines personnes qui ne se sentent pas et en accord avec le sexe de l'état civil. Et je me dis qu'il faut juste l'accepter. Je ne dis pas le comprendre ou trouver que c'est bien ou pas mal. Je pense qu'il faut sortir du jugement et dire, bon, les clitoris, très, très majoritairement, appartiennent à des femmes, mais pas que. Et je pense que c'est bien garder ça à l'esprit, même si, par exemple, pour ce qui est linguistique, j'admire profondément Tiffaine, quoi.
Oui. Alors, on va commencer cette interview que tu as faite et je vais reprendre les questions que tu poses dans le livre. Et tu dis, salut, ça va? Le micro, c'est bon? On est à la radio, donc on est en réalité. Hein? Est-ce que tu peux te présenter, Madame Clitori?
et tu veux que je le lise?
Ben oui, si tu veux bien. Tu l'as?
Oui.
Alors...
Ah, bon, tu veux faire la lecture?
Oui, la lecture de la première partie, okay. Parce que vraiment, comme ça, j'aime bien, il y a une question que j'adore.
Donc, ok, donc, salut, merci pour cette interview. Ça me fait très plaisir d'être ici. Je m'appelle Clitoris, je suis une clitoris parmi les 4 milliards de clitoris humains. Mais je suis unique.
Pourquoi unique, hein?
Parce que nous sommes toutes différentes. Il n'y a pas deux clitoris identiques dans le monde ou dans l'histoire de l'humanité. Il existe même des différences entre les clitoris des sœurs jumelles.
Tu serais un peu comme un nez?
Oui, c'est ça. Tous les nez se ressemblent un peu, mais chaque nez est unique. Et comme chaque nez, je ne suis pas symétrique non plus. Nous, les clitoris, nous ne sommes pas des figurines Playmobil.
J'aime beaucoup cette façon de se présenter, très, très concrète, très, très parlante. Tout de suite, on comprend l'état d'esprit dans lequel tu écris ce livre, tu as aussi envie d'en rire.
Oui.
Et la question suivante le dit bien. Est-ce que tu as un côté joueuse quand même?
Oui, mais ça dépend des jours, des hormones, de la personne qui veut s'approcher. Il y a des jours avec et des jours sans. Et il y a des jours où j'ai envie de danser, de passer un bon moment. Et il y en a d'autres où je veux être tranquille.
Ça, je trouve que c'est superbe parce que ça annonce la question du consentement dont on parle beaucoup en ce moment. Ça montre aussi la question de la variation des sentiments et des envies, des désirs. Quand on veut nous faire croire que les hommes auraient tout le temps envie de bander et que eux ils sont éduqués dans cette envie-là qui leur pèse au fond, qui parfois doit peser à certains, en tout cas peut-être pas à tous, peut-être pas tout le temps, mais quand même cette obligation de résultat, cette obligation de performance, ça doit être quand même quelque chose de très violent.
Ah oui.
Quand tu dis il y a des jours où j'ai envie de danser et des autres jours où je veux être tranquille, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. Et hommes et femmes, en fait, il y a des jours où des hommes veulent être tranquilles. C'est pas vrai qu'ils ont envie de baiser 24-24, quoi. On n'y croit pas.
Oui, je pense que tous les cinémas, toutes les séries TV, on nous donne une idée qu'on a tout le temps envie de rire, envie d'être bien habillé, envie de recevoir du monde. Et non, on est des mammifères. Il fait froid, parfois on a envie surtout de se reposer. Mais on a du mal à nous accepter, en fait, comme êtres humains nous-mêmes.
Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas?
Ah.
C'est la page d'après.
Oui. Je ne suis pas une machine à café.
J'ai adoré cette image. Et le dessin qui va avec, montre une vulve, avec un peu comme un visage. Parce que bon, on est à la radio, pas à la télé, donc on ne peut pas montrer les images. On voit une vulve, un peu comme un visage, avec des yeux, une bouche grande ouverte, comme quand on a peur. Et au-dessus, le petit
interrupteur
on-off.
Ça, c'est une création de Javiera et de Jai. Et puis, qu'est-ce qu'il dit clitoris? Je ne suis pas une machine à café. Et je n'aime pas être touchée comme si j'étais un bouton on-off. Je ne marche pas comme ça. Et je n'aime pas qu'on me traite comme une prise pour brancher des appareils brouillants. D'ailleurs, en plus de faire du bruit et de me déranger moi, il pollue les océans et dérange pas mal les animaux aquatiques.
Quand tu parles de ces appareils bruyants, tu fais allusion aux sextoys.
Oui.
Tu penses que c'est pas forcément une bonne chose.
Non, je suis contre et un peu à favor. Alors, pourquoi contre ou pourquoi à faveur ? À faveur, d'abord, je veux dire que lorsqu'il y a une personne qui a subi une mutilation génitale ou qui a eu un autre problème grave, les sectos peuvent fonctionner comme une médiation, c'est-à-dire comme quelque chose qui va venir compenser d'autres difficultés, par exemple difficultés, les personnes qui n'ont pas des mains ou qui ont une difficulté motrice ou qui ont un Parkinson ou autre, et des personnes pour qui s'explorer ou se toucher soi-même peut être en dehors de leur portée et
ne permet pas donc la masturbation personnelle.
Voilà, donc toutes ces personnes-là ou qui ont été mutilées et qui connaissent absolument pas quelle réaction pourraient en avoir. Et un sextoy peut avoir un rôle médical, vraiment pour permettre que la personne récupère la santé sexuelle, c'est-à-dire pouvoir arriver à une décharge orgastique, c'est-à-dire à la contraction musculaire de cette zone du corps. Mais dans la plupart des personnes, ils ont besoin surtout d'éducation et de se laver les mains et occuper les mains. Et se permettre mentalement de dire... j'ai le droit d'accéder à mon corps. Alors, pour les hommes, ça ne se pose pas la question parce que c'est très rigolo. En fait, on rit et d'un homme qui touche son sissi, un petit garçon qui joue avec son sissi, on va rigoler. Et un homme qui se masturbe, bon, personne ne va s'évanouir d'écouter ça. En fait, ça nous étonnerait de savoir qu'il y a un homme qui ne se masturbe pas. Là, ça serait quand même problématique. Mais dire masturbation féminine, c'est un grand tabou. Et il y a Julia Pietri en France qui a écrit d'ailleurs son livre en auto-édition Au bout des doigts, et les tomes 1 et puis maintenant les tomes 2. Et puis son livre, voilà, c'était compliqué, les titres, hein, les petites guides de la masturbation féminine. Et il faut savoir que depuis le 20e siècle, acheter un vibromasseur, ce n'est pas un tabou. Parce qu'on parle de quoi ? Une coupure des classes. Et actuellement, dans les sectors qui coûtent 120 euros, 140 euros, il faut savoir que combien de heures de travail signifie 120 euros pour une femme de ménage. Ah. Et quand une personne gagne 1200 euros par mois, si on lui dit les jouets sexuels pour que tu puisses jouir, c'est les 10% de ton salaire, c'est-à-dire on est en train de faire une coupure entre les gens qui peuvent accéder à l'orgasme et les femmes qui ne peuvent pas parce qu'elles sont pauvres. Donc pour moi, c'est une violence systémique aussi, une violence sexuelle, en dehors de toutes les problématiques de matériaux et qui, pour la plupart, comme les tampons, n'ont pas été
analysés.
Ou l'ont été et ils sont dangereux.
Et
je vais me permettre... Et quelle autre chose, je n'ai pas écrit dans le livre parce que je voulais garder les laitons drôles et tout, sympa. Mais j'ai eu des patientes qui arrivent en me disant qu'elles ont perdu la sensibilité du clitoris parce qu'ils l'ont mis trop directement et ils ne savaient pas. Et il y a d'autres femmes qui sont complètement habituées à ça et quand ils sont avec son partenaire sexuel, ils ne sentent pas grand-chose. Et je dis, c'est simple, notre corps s'habitue à un seuil de tolérance. Et puis par exemple, si je mange très très piquante, après, je ne vais pas sentir les nuances si je suis habituée à très, très fort. Si je mange la nourriture brûlante, ma langue ne va pas sentir les nuances du tien. Si je mets beaucoup de sel, les autres papilles ne vont pas sentir quand je mets juste deux petites graines de sel parce que je suis habituée à trop du sel. C'est pareil. Et si je mets dans la vulve un trou qui vibre et à 10 à l'heure, quand je mets un pénis normal et qui bouge lentement, et en fait... la personne va sentir qu'on ne le fait même pas des chatouilles, parce que c'est habitué. Et ça, on ne parlait pas. Donc, moi, je ne pense pas qu'il soit très positif pour une femme en bonne santé de laisser ses mains d'à côté et s'habituer à une machine.
Il vaut mieux autogérer sa sexualité, ouais. Le faire soi-même avec ses mains, un coussin avec des objets, mais qui ne pénètrent pas dans la vulve, en fait. Parce qu'on peut. Le clitoris, en fait, enfin, on y reviendra, mais il est aussi très excité par l'extérieur du corps, pas seulement par l'intérieur.
Mais c'est ça les tabous. Les tabous, c'est dire une femme peut se donner plaisir quand elle veut. Oui. Elle n'est pas dépendante ni d'une marque, ni d'un ingénieur qui a inventé quoi que ce soit, ni de le clitoris à la mode ou les vibromasseurs à la mode. Elle est autonome. Elle peut, où elle veut, les jours qu'elle veut, se laver les mains et faire ce qu'elle a à faire. Et c'est différente. Et ça, c'est autre chose. Le sexto nous déshumanise parce que ça veut dire que ta manière d'arriver à l'excitation sexuelle, c'est la même que la mienne. Et c'est faux. Et ça, c'est comme dire on va manger les mêmes menus tout le monde, tout le temps. Non. Et donc, pour moi, c'est déshumanisante cette idée de dire que moi, pour accéder à l'orgasme, j'ai besoin d'un objet.
La 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 Moi ta beauté avec un violent flamme. Danse-moi dans la panique jusqu'au repos de mon âme. Lève-moi comme un olivier, sois ma colombe de retour. Danse-moi vers la fin de l'amour. Danse-moi vers la fin. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins sont partis. Laisse-moi te sentir rouger comme à Babylone jadis. Révèle-moi ce dont je vois les limites et le tout. Danse-moi vers la fin. Danse-moi de la fin. Danse-moi ta beauté
avec un violon en flamme. Danse-moi dans la panique jusqu'au repos de mon âme. Touche-moi avec ta main nue pour canter de velours. Danse-moi vers la fin de l'amour. Danse-moi vers la fin de l'amour. Danse-moi vers la fin.
Danse-moi vers la fin de l'amour, hein, chanté par Grimmel White, donc dans sa version française, une chanson écrite par Leonard Cohen, hein, et qui raconte un voyage à travers tous les amours sur toutes ses formes. Radio Libertaire 89.4, Remue Méninge féministe.
Et donc, nous sommes toujours en compagnie de Violetta Belloucha pour son livre Clitoris 4U, une interview en français. Vraiment, c'est un livre à mettre entre toutes les mains des jeunes femmes, des vieilles femmes, des femmes d'âge moyen, des hommes jeunes, moins jeunes, etc. pour comprendre comment fonctionne le corps des personnes qui ont une clitoris, parce que c'est vraiment très riche. Et on découvre quasi à chaque page quelque chose de nouveau de notre anatomie et de comment cette anatomie fonctionne avec le reste de notre corps. Tu as fait un portrait de la clitoris avec un petit t-shirt « Punk is not dead » parce que tu lui mets à la clitoris une crête verte.
En fait, ça c'est une création aussi de Javier Hernández, que son Instagram c'est « J de Jai » avec la lettre « J ». Et bon, moi j'ai fait les illustrations vraiment anatomiques pures et dures, hein, avec nerfs et tout. Et c'est elle qui a fait justement cela, que c'est une représentation. Je lui dis, je veux montrer le ligament et suspenseur, parce que le clitoris, c'est le seul organe qui est proportionnellement un ligament très très grand. Et pourquoi ? Parce que cet organe doit rester bien accroché au milieu de la pelvis, malgré les pénétrations. Donc il y a un pubis, le pubis qui va rentrer et qui va venir frapper la porte, on va dire, à plusieurs reprises pendant des années. Et puis cet organe doit rester aussi accroché quand il y a l'expulsion du bébé qui fait 3 kilos et quelques. Donc il ne faut pas qu'il bouge. Donc c'est pour ça que ce ligament est très très grand.
Et voilà, Javier est très puissant.
Et c'est pour ça que Javier a eu l'excellente idée de dire, écoute, pour qu'il soit drôle, sympa, je te propose ça.
Il est magnifique. Hein. Voilà, il a une crête verte. Après, on lui voit une petite tête avec on peut dire un bout du nez jaune. Ça va être le gland du clitoris. Oui. On voit les deux bras très longs, un peu comme des voiles, oui, qui vont nous emmener on ne sait pas où. Et c'est en fait les piliers du clitoris, de la clitoris. Et puis deux petites boules roses. Et alors ça, c'est quoi ?
Et c'est les bulbes. Les bulbes sont les parties qui entourent le vagin. Ils sont à côté gauche et à côté droit du vagin. Et puis le t-shirt dit « Punk is not dead ». J'adorais, mais c'est une création 100% Javier Hernández Roofs, J de Jai.
Magnifique. Ça nous permet de mieux nous représenter ce qu'est cet organe. Est-ce qu'on peut dire que la taille du dessin, c'est à peu près la taille réelle ou ça...
C'est incroyable parce qu'on a toujours culturellement l'idée d'imaginer un clitoris dans une femme adulte. Mais en fait, les clitoris existaient déjà chez les bébés.
Même chez les embryons.
Et donc à partir de la 10e semaine
de grossesse.
Des grossesses, que c'est le moment où il y a une différenciation dans la partie de le tubercule génital qui va se différencier soit vers un pénis et des testicules et le scrotum, la peau qui est autour, ou un clitoris et la vulve qui est la peau qui est autour. Mais en fait, le clitoris, c'est comme les seins. Et il y a des femmes petites avec des gros seins Il a des femmes grandes avec des tout petits seins. Il a des seins triangulaires, il a des seins ronds et plutôt asymétriques avec des grandes auréoles. En fait, des seins extrêmement divers et variés. Et les clitoris, c'est pareil. Et il est asymétrique et il y a des tailles très diverses, comme notre nez. Donc, tout ce qui est dire et le clitoris mesure ceci ou cela, et on le fait parce que c'est notre culture. Et j'ai fait dans les livres certaines
des
choses.
Moyennes, hein,
des
certaines,
moyennes.
Des moyennes.
Voilà. Mais dans la vie réelle, il y a une diversité énorme.
De même que pour les pénis, d'ailleurs, il y a une diversité énorme de tailles, d'aspects, de positions, de grosseurs. Il y en a certains qui sont plutôt tout droits, des autres plutôt courbés, dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Oui. Et, tout ça. Et c'est vrai que c'est important de le savoir pour tout le monde, parce que ça génère quand même beaucoup d'anxiété, notamment chez les petits garçons, quand ils comparent leur pénis à ceux de leur père, par exemple, ou à ceux de leurs copains ou de leurs frères qui sont plus grands et tout ça. Et est-ce que je vais être comme tout le monde? Est-ce qu'il est assez grand? L'idée, c'est qu'il soit toujours grand, évidemment, alors que tout le monde sait que c'est pas forcément les pénis les plus gros qui donnent le plus de plaisir aux dames. C'est au contraire. Mais voilà, c'est vrai que c'est important de déconstruire ces images d'une normalité robotisée presque.
Oui, oui, parce que ça fait de la peine en fait. Ça fait énormément de la peine. Moi, je sais que dans les jargons féministes, on va utiliser des mots stéréotypes, injonctions, déconstruction. Mais si on va vraiment au sentiment, ça crée des complexes, ça pourrit la vie sexuelle de beaucoup de monde, de penser qu'on a un pénis trop petit, qu'on a un testicule trop grand, qu'on est trop poilu, qu'on a des vergetures. En fait, on souffre énormément. La sexualité est très nue face à notre être humain. Et je pense surtout aux jeunes maintenant, qui montrent un corps si parfait, avec des sommes à tablette de chocolat, les filles qui, on dirait qu'elles sont des poupées, ça fait que et créer de l'inhibition sexuelle. Parce qu'on n'a pas envie de se montrer à poil si on a une image de qu'est-ce que c'est un corps parfait. Parce qu'on se sent nul, en fait. Homme ou femme.
Ouais. Et les copines du planning familial que je rencontre parfois me disent que quand elles font des groupes de parole avec des adolescents, il y a souvent des garçons qui expriment le fait qu'ils pensent que leur petite amie n'est pas normale parce qu'elle a des poils sur le pubis, par exemple. Mmh. Parce que de plus en plus de femmes et de jeunes femmes se rasent le pubis pour paraître propre. Mmh. Comme si les poils, c'était sale. Mmh. Les poils, c'est pas propre ou sale. C'est propre si on les lave et c'est sale si on les lave pas. Mais en tant que tel, ça fait partie de notre anatomie aussi.
Et il y a un rôle érogène aussi. Hein, parce que quand on frotte les poils et le bulbe du poil, il est dans les couches de la peau plus profondes. Donc quand on touche les poils, et ça vient venir faire vibrer la partie profonde, qui sont des terminations nerveuses qui réagissent à la vibration. Donc ça nous permet d'être excités. Et donc quand on coupe tous les poils du pubis, on coupe notre possibilité à être excité, à avoir du plaisir. Donc c'est triste.
Oui, en plus que moi... C'est pas ma pratique, je l'ai jamais pratiqué sauf une fois pour une opération. Enfin, c'est même pas moi qui l'ai fait, c'est une infirmière qui m'a rasé le pubis pour une opération. Et après, c'est quand ça repousse, mais ça fait horriblement mal parce que les poils, ils repoussent dur, alors qu'avant, ils étaient plutôt souples. Et là, à ce moment-là, on a mal jusqu'à ce qu'ils atteignent une certaine dimension. Moi, j'ai quand même une peur bleue de me couper en me rasant. C'est quand même fréquent qu'on se coupe quand on se rase. Les hommes le savent bien quand ils se rasent le visage. Et moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi faire ça, quoi.
C'est créer vraiment... le porno, hein, c'est l'exploitation sexuelle des femmes, des hommes aussi, d'ailleurs, qui a véhiculé cette idée où c'est affreux de le reconnaître, mais les chirurgiens esthétiques, ils sont main dans la main avec l'industrie et la pornographie. Parce que toutes les artistes pornographiques qui ont des petites lèvres, et que, dans un imaginaire très pédocriminel, des lèvres coupées, donc c'est comme une excision, mais c'est médicalisé. Où il n'y a pas de lèvres, tout est lisse, comme un petit abricot qui en fait une fente au milieu. Et tout ça, c'est deux industries. C'est l'industrie esthétique, où il y a une violence médicale. Et puis, il y a la pornographie avec tout ce qu'on connaît.
Et donc... C'est super intéressant ton livre parce que sous couvert d'avoir fait un livre d'anatomie, c'est au fond un livre féministe. Vraiment bravo, parce que le challenge est réussi. Le livre est vraiment très beau aussi du point de vue des illustrations. Les couleurs sont magnifiques. Et donc, est-ce que je voudrais qu'on revienne au portrait du clitoris avec toutes ses parties et... à partir notamment des deux portraits qui sont pages 36-37, qui sont très beaux parce qu'on voit quatre images du clitoris, de pile, de face, attachées ou détachées. Et donc, je voudrais que tu nous présentes un petit peu qu'est-ce qu'on voit.
Et bon, les clitoris, il faut l'imaginer comme une petite pyramide. Hein, et c'est ça, les volumes. Et il y a deux piliers, et les deux piliers vont se réunir dans une espèce de triangle, vont monter un petit peu, ça c'est le corps ascendant. Après, il va revenir courbé, va changer de direction. Quand ça change de direction, ça s'appelle l'angle. Et va descendre, c'est comme un toboggan, les deux piliers réunis. Et puis ça descend jusqu'au gland. Le gland est la partie externe de la vulve, en partie.
C'est un peu comme si on pliait une fourchette en deux, en fait.
Un peu, voilà.
Une fourchette à deux doigts, et comme si on la pliait en deux, un peu après la jonction des deux dents de la fourchette.
Voilà, on peut imaginer aussi une lettre Y à l'envers,
oui.
La tête à l'envers, et que la petite pointe, on la plie vers l'avant. Alors, les glands, et ce n'est pas tous les glands qui sont à l'extérieur, les glands, il est en partie, partiellement, dehors. Alors, parfois, c'est une toute petite partie, ou parfois, c'est la moitié, mais ce n'est pas tous les glands qui sont dehors. Et puis, il y a un plexus veineux, c'est-à-dire, il y a deux triangles, hein, où il y a des veines anastomosées, quelques artères, quelques veines, qui vont communiquer les piliers avec deux bulbes. Les bulbes sont comme deux gouttes d'eau ou deux figues aplaties, et ces deux figues aplaties sont d'un côté et de l'autre du vagin et de l'urètre. L'urètre, c'est les tuyaux où on fait pipi, qui communique avec la vessie. Et puis, les bulbes entre eux, ils sont ensemble. Et ça, c'est la commissure bulbaire.
Ils se retouchent l'un contre l'autre.
Voilà, c'est comme la lettre U. Et c'est vraiment comme une lettre U à l'envers.
Oui. On va faire tout l'alphabet, alors. Y, U, O, on peut dire le gland, ça fait un peu comme un petit O.
Oui, je trouve que c'est intéressant d'avoir des représentations, des formes et des volumes. C'est très bien, d'aller très haut, oui.
En plus, vous mettez, avec Jay, qui a fait des illustrations avec toi, vous mettez aussi des couleurs, alors c'est très gai. Vous avez mis tout en rose, alors les féministes, elles aiment bien le rose quand c'est un rose un peu punchy,
hein. Oui.
Pas quand c'est le rose Barbie ou le rose layette, mais c'est assez gai parce que vous avez mis aussi des parties en vert, c'est les nerfs, j'imagine.
C'est les ligaments.
C'est les ligaments.
Ligaments.
Et en bleu, donc c'est les...
C'est les veines.
C'est les veines. Et donc voilà, on peut se représenter comme ça. Et donc moi, vraiment, je vous invite à acheter ce livre parce que vous allez mieux connaître votre corps et mieux comprendre comment ça marche. Et donc, ce que je voudrais que tu nous présentes maintenant, c'est la place du clitoris dans le système reproducteur. J'ai trouvé ça aussi très intéressant, c'est que parfois on parle de la clitoris comme organe tout seul, et toi tu dis non, ça fait partie d'un système,
oui.
De la même façon qu'on a un système digestif avec plusieurs parties, le système reproducteur comprend plusieurs organes, dont la clitoris, mais tu vas nous dire un peu comment ça marche.
Et en fait, c'est que c'est très intéressant de système reproducteur, de savoir que le seul organe qui est effacé de son système, c'est le clitoris. Il n'y a pas, dans aucun livre d'enfant, aucun éditeur, aucune éditrice, oserait présenter un système digestif sans les pancréas. Parce que ça serait une faute. Tout le monde comprendrait qu'il a un problème s'il n'a pas de pancréas. Et si on présente le système excréteur avec un rein et pas deux reins, on se dirait... Il y a un problème, c'est-à-dire on est en train de créer de la désinformation chez les enfants. Et par contre, on se permet d'effacer le clitoris.
Et ça, depuis des siècles, tu as pu étudier un grand nombre d'encyclopédies, de manuels médicaux destinés aux étudiants, où tu t'es rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucune représentation.
En fait, il y en a, mais sont incomplètes et ils sont à un niveau de représentation rudimentaire. Et... Par exemple, face au pénis ou les testicules, on peut voir l'intérieur. Donc un testicule fait 3,5 cm en moyenne et d'hauteur. Et puis, ce n'est pas un problème, on va le regarder à l'intérieur, on va voir les couches et de la peau, du fascia, les tissus conjonctifs, etc. On va les décortiquer. Et par contre, le clitoris n'est pas décortiqué. Dans les atlas d'anatomie publiés en France entre 2019 et 2024, il y a des images manquantes. Alors, j'ai voyagé à Londres, à Portugal, et j'ai chez moi des atlas d'anatomie en allemand, et en anglais, en espagnol, en français. Et il y a encore des images manquantes, c'est-à-dire qu'il faut lire d'autres livres spécialisés pour comprendre où vont les artères. Et surtout, et culturellement, toute la population pense que le clitoris est tout nu. Et ils ne savent pas que c'est recouvert des muscles. Et c'est terrible pour la sexualité, parce que les femmes ne savent pas que sa santé sexuelle dépend de la santé de ses muscles, de la tonicité et élasticité de ses muscles. Et quand il y a autant d'épisiotomies, alors la France a un 29% d'épisiotomies, l'Organisation mondiale de la santé dit que ça ne devrait pas dépasser les 10%, ou entre les 10 et les 15, mais pas plus, et parce que c'est la moyenne de certaines difficultés pendant l'accouchement. Donc on sait que si on dépasse les 15%, et c'est des épisiotomies qui n'auraient pas dû avoir lieu. Et quand on comprend que le clitoris est recouvert des muscles et que l'épisiotomie, c'est une coupure de ces muscles, on sait que l'organe ne va pas marcher si bien s'il y a un muscle avec une cicatrice. Et c'est bien évident.
Comme dans toute opération ou toute blessure, quand on se coupe un doigt, on a notre doigt qui marche moins bien, évidemment.
Voilà, donc le clitoris, c'est un organe recouvert des muscles. Et ça, il nous manque comme société, il nous manque cette représentation. Et si les gens comprenaient ça, comprendrions tout le monde que plus on va explorer cet organe et plus on va jouir, et plus la jouissance va être forte, mais pas parce que notre imaginaire érotique va être développé, chose qu'on peut faire aussi, hein, et avec des chansons, avec des bonnes expériences, avec des séries télévision, avec photos, tout ce qu'on veut. Mais aussi parce que les muscles vont apprendre à être plus souples et avoir une capacité de contraction plus forte, comme les biceps, comme n'importe quel muscle.
Et alors,
les systèmes reproducteurs, pardon.
Voilà.
Donc, il y a le clitoris qui appartient à la vulve du point de vue anatomique, parce qu'il partage des nerfs, des veines, des artères, donc son unité. Et c'est comme dire les testicules et les scrotum, la peau qui est autour. On ne peut pas imaginer les testicules sans la peau, ni la peau sans les testicules, ça marche ensemble. Donc voilà, la vulve et le clitoris, après il y a le vagin, et l'utérus, les trompes utérines, et l'ovaire avec son ligament qui est attaché. Et puis il y a des glandes, il y a les glandes vestibulaires majeures, et qui sont une espèce comme des petits pois, un pois chiche aplati, et qui a des petits tuyaux, et qui arrive à l'orifice vaginal, à l'entrée de l'orifice vaginal. Alors ici, pour des choses pédagogiques, on a fait deux points à l'extérieur dans les vestibules, mais dans la vie réelle, il est entre l'hymen, qui est une membrane naturellement ouverte, et entre l'orifice vaginal. Donc dans ces premiers centimètres, il y a l'orifice de ces glandes, et puis il y a les glandes périurétrales qui sont autour de l'urètre, qui sont les glandes éjaculatrices. Et qui produisent un liquide d'éjaculation, qui c'est à peu près comme les tétons des hommes. Les hommes ne vont pas allaiter, mais ont des tétons quand même. Et s'ils ont parfois un petit changement hormonal, ils peuvent avoir un liquide qui sort de ces tétons. C'est rare, mais ça arrive. Et voilà, il y a des femmes qui vont éjaculer, mais ça va être lubrifiant et ça va sortir dans des orifices qui sont à côté de l'orifice urétral, à côté de l'orifice qui fait pipi.
On voit qu'on a beaucoup de choses à apprendre et que tu l'illustres vraiment très bien avec des images comme le pois chiche aplati. We'll be right back.
Jimmy Somerville qui chantait « Voya ». Pourquoi nous devons nous battre pour faire exister nos amours? Alors Jimmy Somerville qui nomma avec Richard Coles leur duo Les Communards en souvenir de la Commune de Paris. Le premier album des Communards était de faire passer un message à travers leur musique et paroles sur des textes évoquant l'amour entre hommes et aussi entre femmes, évidemment. Ils assumeront ainsi publiquement leur homosexualité, ce qui, au début des années 80, était une marque de courage. Et j'en connais un rayon car j'étais aussi de la partie étant moi-même lesbienne. Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité de la Fédération anarchiste, toujours sur Remue Méninges féministe jusqu'à 14h30.
Et toujours en compagnie de Violetta Belloucha pour son livre « Clitoris 4U, une interview en français ». Je reviens sur le titre. Pourquoi 4U ?
Ah, en fait, parce que c'est « for you » en anglais. Mais je l'écris pourquoi ? Parce que mon intention, c'est que ce livre sorte dans plusieurs langues. Et donc, on est en train de faire maintenant la version en espagnol et en anglais. Et la langue anglaise, c'est la langue internationale des atlas d'anatomie et des groupes.
Et beaucoup de choses.
des groupes de chirurgie, des formations pour chirurgiens, etc. Et les jeunes, comment ils s'écrivent rapidement les jeunes de collège, hein, depuis, oui. Ils sont 11 ans, ils commencent à écrire avec des lettres. Et je me dis, voilà, j'espère que ça va faire un changement et ça va être acquis comme un texto, que ce soit facile. En fait, c'est de là qu'est surgit l'idée Clitoris for You.
D'accord, donc Clitoris for You, je le dirai comme ça dorénavant. Moi, je voyais 4, je lisais 4 et je n'avais pas traduit en anglais. On continue donc à explorer tout ce que nous apprend ton livre, qui est vraiment merveilleux. J'en arrive à la vulve, parce qu'à un endroit, tu dis la vulve a 6 orifices.
Et oui, voilà, 6 orifices. Un orifice par lequel
c'est
on fait...
Pas les 7... Moi, ça m'amuse parce que bien souvent dans la vie, on cherche les 7 couleurs de l'arc-en-ciel ou le nom des 7 teints et on ne les trouve jamais. Donc là, c'est un jeu de société. Vous faites ça dans votre famille le soir de Noël, de demander quels sont les 6 orifices de la vulve.
Bon, en général, quand je donne des conférences, même à des sages-femmes, hein, c'est qui... Bon... Mieux vaut rire que pleurer. À moi, me faire rire, mais d'une part aussi, ça me pince au cœur de dire on a des problèmes dans la formation des sages-femmes et aussi des étudiantes en médecine. J'ai dit combien de orifices il y a à la vulve, mais 2. Donc le pipi et le vagin. Mais si on passe à revue, en fait, l'orifice où sort l'urine, c'est le méaurétral qui communique avec la vessie. Il y a les 2 orifices qui communiquent avec les glandes périurétrales ou paraurétrales qui sont autour de l'urètre. Et par ces 3 orifices, ça sort le squirt, ou l'éjaculation féminine. C'est que c'est produit de manière mécanique. Alors, ces glandes, ils ont été dessinées en 1948, très très bien dessinées, et même avant. Et puis, on peut voir qu'il y a des personnes qui ont plus de glandes que d'autres. Donc, il y a des personnes, des femmes dans ces cas-là, qui vont éjaculer plus que d'autres. Alors, l'éjaculation, c'est quelque chose de mécanique, n'a rien à voir avec le plaisir. C'est juste une stimulation de certaines glandes qui sont autour de l'urètre et qui ont un même rôle qu'est autour du pénis. On fait pour protéger, pour amortir. Voilà. Après, il y a l'orifice vaginal où il va sortir la menstruation, mais aussi la glaire cervicale. Et il va sortir des bébés aussi. Et puis, la transsudation. La transsudation, c'est du liquide qui va passer par osmose au travers des parois vaginales lorsqu'il y a un grand moment d'excitation. Et ce n'est pas pareil que la glaire cervicale, parce qu'une chose, c'est d'ordre hormonal, et l'autre, c'est plutôt, on va dire, une évaporation pour quelque chose de mécanique, parce que c'est ça, c'est dilaté. Et puis, il y a 2 autres orifices en bas. C'est ceux des glandes vestibulaires majeures où va sortir la cyprine. Et la féministe Monique Wittig a inventé ces mots, a commencé à l'utiliser. Je trouve que c'est très bien parce qu'on ne devrait pas ne pas avoir un nom pour un fluide. Et donc le fluide, c'est la cyprine, c'est le liquide lubrifiant de l'entrée de l'orifice vaginal.
D'accord. Et le sixième orifice, c'est l'anus ? Non, c'est à côté.
En fait, c'est
une... C'est le septième.
Voilà, ça, je ne l'ai pas mentionné parce que ce n'est pas la vulve, mais oui. Les six, c'est les deux des glandes de vestibulaire. Donc, 2, 3 et 2, 1, donc ça fait 6.
Donc, du coup, avec l'anus, ça fait 7. Donc, on est bien sur les 7 nains ou les 7 couleurs de l'arc-en-ciel.
Oui, oui, tiens, les 7, ok.
Ah, mais c'est super. Vraiment, c'est très intéressant de découvrir et qu'en plus, ça permet de comprendre des choses qui nous arrivent. Je ne vais pas raconter toute ma vie à l'antenne, mais là, je viens d'apprendre quelque chose sur ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. Et donc, ces 6 orifices de la vulve, on voit qu'ils ont donc chacun un rôle. Et je trouve que c'est super important de bien les comprendre et de bien les connaître, y compris de différencier ces différents fluides.
Oui.
Parce que moi, je pensais qu'on avait juste ce qui sert de lubrifiant pour avoir des muqueuses en bon état, mais je n'avais pas pensé qu'il y avait trois liquides différents.
Oui, et en fait, il y a un autre qui c'est le smegma, qui ici n'est pas mentionné, et au moins pas dans cette page. Le smegma, c'est un liquide lubrifiant qui se trouve, qui est produite par des glandes sébacées de la peau du capuchon. Le capuchon, c'est la peau qui recouvre les glandes clitoridiennes et qu'on peut décaloter. Si on prend soi-même, on met deux doigts, l'index et le majeur, par-dessus les glands et on tire vers le haut, c'est-à-dire vers notre nombril, on va voir qu'il y a des plis de peau qui peuvent monter. Ça, c'est les capuchons, parce que les prépuces clitoriens ne peuvent pas bouger. Donc ça, c'est la partie sans poil. Mais si on tire vers le haut le capuchon, on peut voir parfois des petits points blancs, qui sont comme les petits boutons des graisses qu'on peut avoir sur les nez. Et si on les presse, va sortir comme une tête d'aiguille et couleur blanc. Et ça a une odeur très très forte. Et CPH, qui a une odeur très très forte, très acide, a un rôle de protection. Et voilà, parfois les gens disent je sens la vulve, et c'est pas la vulve ou l'orifice vaginal qui sent quoi que ce soit, c'est par-dessous les capuchons, que c'est l'esmegma qui n'a pas été lavé. D'ailleurs, c'est très triste à dire, mais il y a des femmes qui doivent arriver avec une arrivent à une opération et avec une grande infection autour du gland clitoridien, juste parce que personne ne les a dit qu'elles devaient se décaloter et laver à l'eau. Et c'est triste, parce que c'est une info très facile à donner.
Oui, il y a d'autres choses aussi, j'en parlais tout à l'heure hors antenne, c'est par exemple l'image, la représentation qu'on a globalement, généralement, du vagin, c'est que c'est un tunnel ou un tuyau de PVC, et en fait, pas du tout. Mm-hmm. Il y a deux choses à savoir, c'est que, un, c'est pas ouvert, c'est fermé comme on a sa bouche fermée dans certaines situations, ou son poing fermé. Mm-hmm. On peut imaginer son poing fermé, et quand on ouvre son poing, alors évidemment, il y a une ouverture, mais le vagin, en position... Repos, habituel, il est fermé comme son poing quand il est fermé. Quand on lève le poing à la manif, son poing fermé, son vagin, il est pareil. Et ce que tu viens de m'expliquer aussi hors antenne, c'est que en fait, ce vagin, ça n'est pas un tube droit, c'est un labyrinthe.
Voilà, c'est sinueux. Et nos vagins, et c'est comme les pénis, il y a certains qui vont plutôt à gauche, d'autres plutôt à droite. Et c'est un peu sinueux et c'est important de le savoir parce qu'il y a des femmes qui, par exemple, pendant un coït, vont sentir que le pénis touche le fond. Mais ce n'est pas qu'il touche le fond, les cervix de l'utérus, c'est qu'il a touché la paroi vaginale parce que c'est un vagin un peu en forme de lettre S. Donc c'est pour ça qu'il y a des femmes qui préfèrent un côté que de l'autre pour avoir des rapports sexuels. Et parce que
c'est une position ou une autre.
Et c'est pour ça que naturellement, on va chercher sa position de confort, mais on ne va pas savoir
pourquoi.
Et c'est pour ça, parce que c'est un peu sinueux, les vagins.
Oui, parce qu'en fait, explorer tout le système reproducteur des femmes, ça a été fait avec essentiellement l'objectif de la maternité, de la naissance, etc., de la reproduction. En revanche, sur le plan de la sexualité, ça a été très peu fait. Et à un moment, dans le livre, tu rends hommage à une gynécologue française, Odile Filou, qui a été la première à faire des échographies du clitoris.
En fait, il y a Odile Filou, elle est une chercheuse qui a fait les premiers modèles 3D du clitoris. Et la personne qui a fait une échographie, c'est Odile Buisson.
Ah oui.
C'est une autre Odile qui a travaillé avec Pierre Foldès. Et Mais non, il y a beaucoup de personnes, que ce soit en France ou ailleurs, qui ont étudié le clitoris. Alors pour moi, la grande révolution, c'était Helen O'Connell, la urologue australienne en 1998, parce qu'elle s'est attaquée à quelque chose de très important, qui sont les nerfs, en vue de la chirurgie de l'urètre. Et puis Odile Fillon en France qui a fait les modèles 3D. Parce qu'à partir d'un modèle 3D, on a déjà une représentation mentale plus complète. Et même si c'est pas réaliste, hein, parce qu'il a mis les bulbes en bas pour que l'objet tienne bien. Mais pour moi, ça, c'est vraiment un grand changement culturel mondial. Hein, parce que c'est pas qu'à l'échelle de France. Grâce à Odile Fillon. Il y a son site internet, Clit Info.
Oui, c'est important d'aller voir parce qu'elle explique beaucoup de choses aussi, c'est vrai.
Et je voudrais mentionner aussi le travail de Magali Pirotte. Elle est canadienne, elle est au Québec. Et son site s'appelle Sex Ed, qui est sexe éducation. Elle a une vision inclusive, elle a des modèles réalistes. Et donc, c'est grâce au travail de Magali Pirotte qui a un moulage 3D du vagin que j'ai pu commencer à dessiner de vagins réels pour mon 12e livre. Voilà.
Alors, dans ton livre, il y a un chapitre qui est essentiellement sur l'innervation du clitoris. Oui. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails. C'est très technique. Je trouvais que ce n'était pas si facile que ça de se l'approprier, parce que c'est vrai, ça... Toutes les phrases, on apprend quelque chose, quoi. Et donc, le temps que ça aille dans le cerveau, la mémoire, tout ça, c'est compliqué. Est-ce que tu peux nous présenter simplement cette question d'innervation de la clitoris?
Cet organe a une double innervation. Et donc, une vient du nerf pudendal, qui c'est malheureux, hein, on l'appelle pudendal. Sur Instagram, j'ai dit qu'on devrait l'appeler le nerf érogène. Mais on garde encore les noms hein, qui a la racine dans les mots honte. Mais bon, ces nerfs-là viennent, pour faire simple, de la partie de derrière de notre colonne vertébrale, du sacrum. Et il y a une autre partie de l'innervation qui vient de l'hypogastrique, qui pour faire simple, c'est un nerf qui vient de devant la colonne vertébrale. D'accord, ça c'est pour faire simple. Alors, pour expliquer un peu politiquement pourquoi j'ai fait ça avec Javier, hein, qui est... Et j'ai fait tous les dessins à la main et qu'il a refait après pour qu'il soit joli et bien, bien propre fait avec ordinateur. Et c'est parce que j'ai parlé en France avec quatre ministres de l'égalité en femmes pour dire qu'il avait un gros problème et qu'il y a un livre qui est dédié exclusivement à l'anatomie clitoridienne. C'était fait par deux chercheurs français marseillais, et Vincent Di Marino et Hubert Lepidi. Ils sont allés chercher une maison d'édition en Suisse, Springer, où ils ont publié en 2014 ces livres en anglais. Donc, ces livres en anglais ont été ma source d'information. Et j'ai trouvé terrible qu'on a en France Pierre Foldès, on a et Odile Buisson, qui ont fait la première échographie. Et puis, ces livres, ils restent encore en anglais. Je me dis pourquoi ces patrimoines culturel qui vient de la recherche française, pourquoi n'est pas en français? Donc c'est vrai que c'est un peu chauviniste, mais aussi c'est une chose d'accessibilité.
Mais oui, surtout. Parce qu'en plus, il n'y a pas qu'en France qu'on parle français, donc ça servirait dans plusieurs pays.
Oui, et donc ces livres-là n'ont pas été traduits, et je me suis rendu compte que ces livres-là sont en désaccord avec d'autres anatomistes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, et les atlas d'anatomie, qui sont des deux grandes maisons d'édition qui ont le monopole en France, Elsevier Masson et Malmont, ne sont pas d'accord. Et c'est pour ça qu'ils dessinent les artères, les veines et les nerfs de clitoris très petits. C'est parce qu'ils ne veulent pas trancher, parce qu'il n'y a pas d'argent pour la recherche. Et ils n'ont pas voulu ni les donner au clitoris la place qu'ils méritent, ni vouloir clarifier ces cheminements qui ne sont pas d'accord. Alors, dans ces livres-là... J'ai tranché, alors c'est grâce à Javier, parce que moi j'ai fait mes dessins, et Javier m'appelle, il est en Espagne, et il me dit, écoute, il y a un problème, c'est pas les mêmes chemins.
J'ai dit, comment ça ? Dans les livres
espagnols. Voilà, on parle espagnol toutes les deux, comment dire ça, c'est pas les mêmes chemins. Non, il me dit, c'est pas les mêmes chemins des nerfs. Mais j'ai dit, mais attends, à chaque fois j'ai fait avec un modèle, donc comment ça ? Et je me suis rendu compte que quand j'ai suivi plutôt un atlas ou plutôt un autre, ou plutôt les livres de Di Marino Lepidi, c'était trois chemins différents. Donc j'ai dit, écoute, je vais réécrire le chapitre Et c'est pour ça qu'il a été réécrit, que c'est le projet d'illustration et des éléments essentiels à partir du livre de Di Marino Lepidi, que c'est un livre où il y a seulement des descriptions en anglais et il n'y a aucune image. Donc j'ai dit, je vais faire ça et après on va voir et comment coïncide ou pas. Ça, c'est le travail d'autres personnes, hein, des anatomistes. Mais ce livre, il fait juste les graphismes, la représentation, les illustrations des photographies, des descriptions qu'ont fait Di Marino Lepidi il y a 10 ans.
Et moi, je suis impressionnée par ces images où on voit tous ces nerfs qui font fonctionner notre corps, hein, et qui nous font avoir de la sensibilité. Et du coup, chaque fois qu'on intervient, pour quelque raison que ce soit dans notre corps, on touche à ces nerfs et donc on touche à notre sensibilité, y compris en bien ou en mal.
Oui, il y a par exemple en France une personne très importante pour la santé sexuelle des femmes, que c'est Marie-Rose Gallès. Elle a fait 3 livres sur l'endométriose, ouais, qui touche 10% de la population qui ont des utérus, donc des femmes et aussi d'autres personnes. Et puis, ce sont des douleurs qui peuvent être fort handicapantes. Et moi, je trouve que ces illustrations où on voit tous les nerfs qui arrivent jusqu'au rectum, et puis l'utérus, puis les vagins, puis les conduits qui vont de la vessie jusqu'au rein, et puis la vessie, et à la fin jusqu'au clitoris et la vulve, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, et les douleurs, les énormes souffrances qui ont les femmes et qui ont la fibromyalgie ou qui ont l'endométriose. Parce qu'on voit le réseau où tout est interconnecté. Donc, ce n'est pas dans la tête qu'elles sont mal.
Et oui, et contrairement à ce qu'on veut leur faire croire.
Voilà, et je pense que si toutes les personnes ont cette image-là, ils pourraient dire, ah bon, donc l'innervation va connecter les rectums avec la vulve. Oui, et c'est pour ça qu'une règle très très douloureuse peut avoir aussi des douleurs qui connectent ces deux parties du corps. Et c'est quelque chose de simple, je dis, c'est juste une illustration dans un livre des sciences, et ça pourrait permettre aux gens de comprendre mieux ces pathologies.
Il y a vraiment un gros travail. T'es pas au chômage, hein?
Non, mais...
Enfin, t'es peut-être pas toujours payé pour les séances auxquelles tu participes pour expliquer aux personnes, notamment dans le milieu médical. Mais en tout cas, tu mérites vraiment une médaille d'or.
Merci.
Parce que c'est vrai, on est vraiment dans une société... on nous dit qu'on est dans une société d'information. Sur ce sujet, on est dans une société de désinformation.
Oui.
Parce que c'est pas seulement qu'on n'a pas des informations, mais on a des informations erronées,
oui,
le plus souvent. Et quand ça touche, y compris le monde médical qui doit nous soigner, etc., c'est vraiment un problème, quoi. Et donc, vraiment, merci pour ce livre. Il faudrait qu'il soit offert à tous les étudiants en médecine, enfin, ou qu'il se l'offre. Vraiment, je vous invite pour les prochains mois à commander ce livre. Alors, comment on peut l'acheter, ce livre? Parce que c'est les éditions Belloucha, c'est toi.
Ah oui, c'est moi. Je l'ai fait sur Amazon. Et parce que je voulais accélérer, avoir le pouvoir, en fait, de traduire les livres simultanément dans toutes les langues que je voulais. Et la seule liberté que j'avais, c'est à partir d'Amazon. C'est pas la solution idéale politiquement, mais en fait, il a fallu trancher. Soit j'ai lutté contre Amazon pour toutes les choses qu'on sait économiquement, soit j'ai choisi ma bataille, et pour cette bataille, c'était la santé de toutes les personnes qui ont un clitoris, donc je l'ai publié sur Amazon.
D'accord, et donc on tape ton nom sur Amazon ou sur Internet, on va avoir des liens pour le trouver.
Oui, on met clitoris 4 you livre Violetta et ça devrait apparaître.
Ça devrait apparaître. Et 17 euros, c'est pas très cher pour tout ce qu'on apprend.
En fait, ça c'est triste à dire, hein. C'est très triste, mais c'est plus cher que ça. Et pourquoi? Parce que c'est les prix que je voulais les vendre.
Oui.
Mais en fait, et c'était mon premier livre sur Amazon. Et les calculs des prix, si je l'aurais vendu à ça, je devais les vendre encore plus haut, juste pour les prix zéro. Et pourquoi? Parce que c'était un livre fait à couleur, avec la bonne qualité de papier. Donc c'est beaucoup plus cher à ce que j'imaginais le produire. Et moi, pour gagner 2 euros, les prix, c'est 26.
Ah oui.
Donc, mais j'avais fait la couverture avant. Donc, bon, c'est les métiers qui rentrent.
Comment on dit On en a pour son argent.
Ouais. Oui, oui, que... ça oui.
Parce que vraiment, on... c'est un livre, c'est... il n'est pas énorme, hein. Il fait 150 pages à peu près, et un peu plus, 180. Mais vraiment, on a beaucoup de choses à apprendre. Et en même temps, on est... c'est assez facile de rentrer dedans, parce que comme il y a plein d'images, on regarde les images.
Oui,
comme
oui.
Souvent, comme les enfants, on regarde les images. Et petit à petit, on est entraîné à cheminer. En plus, on n'est pas obligé de le lire de façon linéaire. On peut passer de page en page.
Oui.
Et moi, vraiment, je vais le garder longtemps près de moi, parce que j'ai encore beaucoup de choses à lire et à apprendre. Merci beaucoup, Violetta.
Merci à toi, Elisabeth, pour tes mots, ta gentillesse et l'invitation.
Et donc, comment tu vois l'avenir de ce livre et des informations qu'il contient? Tu fais des conférences?
J'ai fait des conférences. Et on m'a invité au Chili, le pays où je suis née, pour aller le mois de novembre, donner des conférences là-bas. Et là, je suis très contente. Donc, ça a accéléré la traduction en espagnol et puis en anglais. En anglais, la personne qui fait la traduction, c'est la docteure Fatoumata Sila. Elle a un doctorat en épidémiologie. Elle a fait une thèse de doctorat sur la mutilation génitale. Je l'ai rencontrée grâce à l'association Excision Parlons Sang. Donc, comme c'est son métier, c'est elle qui fait la traduction vers l'anglais. Et puis, je suis en train de préparer un 12e livre sur le clitoris, mais c'est sur les différents types de représentations qui va... Voilà, je ne vais pas dire plus, mais j'espère pouvoir les sortir très rapidement. Et pour faire un changement culturel.
Pour montrer d'autres images du clitoris, de la clitoris, et pour que chacun se pose des questions.
Oui.
Eh bien, merci beaucoup, Violetta, pour tout ton travail. C'est vraiment passionnant et t'expliques simplement. Donc, ça permet de mieux se connaître et donc de mieux vivre. Vraiment, c'est un beau projet.
Merci.
Une bonne... bonne raison de vivre aussi, de participer au mieux-être de plein de gens.
Oui, oui, j'espère que ça va aussi faire un petit apport quand même pour lutter contre la mutilation génitale, qui sont 230 millions de personnes actuellement, et petites filles, adolescentes et femmes, avec des souffrances atroces. Et pour moi, ces souffrances viennent de l'ignorance. Et pour moi aussi, une image vaut mille mots. Donc j'espère que quand ce livre sera en anglais... Et ça va être plus rapidement accessible pour beaucoup de public général de comprendre qu'est-ce qu'on coupe. On coupe beaucoup de choses, ça fait beaucoup de mal. Et j'y crois dans l'éducation, j'espère que ça va changer.
On espère aussi. Merci beaucoup. Et quand ton deuxième livre est prêt, tu nous préviens et on te réinvitera.
Avec plaisir.
Même
avec
si c'est compliqué, mais on y arrive, je pense, à peu près. Enfin, ça, c'est aux auditrices et aux auditeurs de nous dire de faire parler les images à la radio.
Merci beaucoup.
Merci, Violetta.
Thank you so much. Gonna play the last song. We have Radomir Milojkovic, Abel Boqueira, Uroš Stamenković, Miguel Grossman, and thank you so much. Outside you have LPs. I can come to sign later. We hope you liked it. We play. We're gonna play Calm.
Magnifique, hein. Vous venez d'entendre un extrait du concert de Muriel Grossman, le concert du 6 septembre 2024 à La Villette, dans le cadre de la, du jazz à La Villette, du festival voilà, de jazz à La Villette. Hein. Et vous pouvez réécouter ce concert sur France TV. Donc Muriel Grossman, avec ses musiciens, trois musiciens qu'elle a présentés au début de ce morceau, qui s'appelle comme Radio Libertaire 89.4. Radio Libertaire 89.4, nous venons d'entendre Catherine Ribeiro, Frères humains et frères et sœurs humaines. Je vais faire un petit famage, comme l'a annoncé tout à l'heure Elisabeth, à Catherine. C'est une lettre que j'ai écrite cette nuit vers 3-4 heures du matin. Donc, excusez les quelques hésitations que je peux avoir en la lisant. Chère Catherine, chère Ribeiro, belle, tendre et rebelle, nous n'avons pas le choix. Il faut s'y faire comme à chaque fois. Mais à ton grand départ, je n'y m'y fais pas encore. Le temps m'aidera. Toi qui évoquais la mort dans certaines de tes chansons, cette toute belle qui te faisait des clins d'yeux et tours de reins indécents, comme tu l'écrivais en 1982 dans ta chanson « Guet-apens », est venue s'allonger à tes côtés le 23 août 2024 et cette fois-ci, tu l'as gardée. Et te voilà déjà partie en cendres, si vite, trop vite. Je n'entendrai plus jamais ta voix vivante et ta présence va me manquer, comme à beaucoup d'entre nous aussi. Quand je me sentais mal dans ce monde trop souvent violent et cruel, ton énergie et ta lucidité me redonnaient du courage. Et même si tu nous laisses une centaine de chansons, mes préférées resteront les deux albums, Le Radibile et L'Homme des Champs de 1974, et celui de 72 avec ta première version de Paix, où tu disais à la mort, dans un jour la mort, de te renvoyer du côté de la vie car tu avais besoin de te battre pour un autre monde. Tu avais besoin de connaître l'an 01 dont tes amis te parlaient et embrasser encore à pleine bouche les lèvres chaudes des garçons et des filles. L'album Paix a été vendu à 50 000 exemplaires. Je rappelle qu'à cette époque, en 72, Internet n'existait pas. Je ne sais pas encore de quelle façon tu es parti, mais j'espère en paix. Tu avais créé ton premier groupe nommé Deux Bis en 1969, avant de l'appeler Alpes l'année d'après, avec Patrice Moulet, ton complice musicien, rencontré sur le tournage du film Les Carabiniers en 63, film de Jacques Godard, qui a composé, Patrice Moulet, qui a composé la plupart de tes musiques. Je t'ai tout de suite aimé. Je me retrouvais dans tes paroles de révolte et d'indignation de ce monde. Que ce soit dans les festivals pop, comme nous les appelions dans les années 70-80, dans les chapelles où tu aimais chanter ou dans les salles, tes concerts étaient toujours archi-pleins. Déjà en 1971, le magazine Rock'n'Folk te classait parmi les 10 meilleurs interprètes du monde et tu as chanté en France dans les plus grandes salles connues. Dans tes premiers concerts, tu faisais éteindre les lumières pour éclairer la scène avec des bougies. Et dès les premiers sons du percuphone, un des nombreux instruments fabriqués par Patrice Moulet, un grand silence s'installait. Et puis tu arrivais, grande, sur scène, vêtue de noir, et ta voix envahissait tout l'espace. C'était toujours des moments très forts et émouvants. Nous nous sommes rencontrés la première fois après un de tes concerts dans une église à La Rochelle dans les années 70. C'est sans doute les plus belles prières entendues dans cette chapelle, m'avait dit l'amie qui m'accompagnait et qui, elle, flirtait avec l'un de tes musiciens. Nous nous sommes regardés et tu es venu vers moi pour m'embrasser car tu croyais que nous nous connaissions déjà. Moment troublant qui nous a laissé quelques minutes déconcertés et puis ensuite nous avons échangé quelques mots. Je me souviens que j'avais soif et tu m'avais spontanément tendu la bière que tu buvais. Nous devions dîner ensemble avec tes musiciens, mais le travail m'avait obligé à reprendre la route pour rentrer chez moi cette nuit-là, hélas. Dans les années 80-90, sur Radio Libertaire, je m'occupais de la technique son et co-animais, si besoin, l'émission « Fruits de la passion » de Gilles Cerizet, chanteur militant homosexuel et animateur à Radio Libertaire, qui était aussi un de tes amis. Il t'a invité plusieurs fois sur l'antenne. Ensuite, je t'ai présenté à Nelly Trumel, avec qui je faisais aussi la technique de Femmes Libres, et qui t'a invité à Radio Libertaire. Émission qui existe encore actuellement le mercredi soir à 18h30, et dont l'indicatif est toujours un de tes morceaux qui s'appelle « Paix » et qui est animé actuellement par Hélène. Ainsi, nous nous sommes revus plusieurs fois, plusieurs occasions, et nous avons gardé un contact. L'année dernière, j'avais prévu de te rendre visite quelques jours pour faire une interview sur ta vie de femme et de chanteuse. Mais un accident assez grave, en août 2023, m'a obligée à mettre ma vie en parenthèse pendant un an pour ma rééducation. En juin de cette année, je commençais à me rétablir et je pensais à m'organiser pour cette interview. Je ne savais pas que tu avais commencé de ton côté à écrire ton autobiographie. Alors, quand le 23 août, j'ai reçu le texto d'une amie, Catherine Ribeiro est décédée, ça a été un grand choc, dont je ne me suis pas encore complètement remise. Il me reste tes vinyles, les CD pour entendre ta voix, le DVD de ton concert au Bouffe du Nord à Paris en 95, nos petits mots toujours tendres et affectueux, échangés, quelques photos, ton livre « L'enfance » écrit en 1999 et ton 06 qui désormais ne répondra plus jamais. J'espère que là où tu es maintenant, tu as rencontré nos amis rebelles partis avant toi. Colette Magny, Anne Sylvestre, Gilles Cerizet et Léo Ferré bien sûr. Et qu'ensemble vous chantez vos chansons rebelles et tendres que nous continuons d'aimer. Celles qui nous donnent l'espoir d'un monde qui deviendrait meilleur pour tous les peuples et où tous les marchands d'armes n'existeraient plus. Ton dernier concert fut en 2007 à Palaiseau, dont est sorti un CD, suivi en 2008 de 3 jours pleins à craquer au Bataclan. À cette occasion, tu m'avais dit « C'est incroyable ce que j'ai écrit il y a 20 ans, 30, voire 40 ans, est toujours d'actualité, je pourrais écrire exactement les mêmes textes maintenant. » Et je t'avais répondu « Eh oui, je crains que nous soyons condamnés à résister toute notre vie pour essayer un monde meilleur. » Catherine, tu resteras toujours l'une des plus grandes chanteuses françaises avec ta voix unique et ta personnalité douce et rebelle. Adieu la belle, je ne te dis pas à bientôt, car j'ai encore des choses à faire sur cette terre, mais tu resteras vivante dans nos cœurs. Et puis, bien sûr, j'espère aussi que tu es auprès de ta fille Johanna, partie elle aussi trop tôt, victime des trafiquants de drogue durs qui tuent sans vergogne nos enfants. Et pour terminer ce famage à Catherine Ribeiro, je vais vous lire un extrait de la quatrième couverture du livre L'enfance dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'elle a écrit en 1999. La guerre pour cadeau de naissance, la mort d'un petit frère, l'incompréhension, le manque d'amour et de tendresse maternelle, les brimades, les punitions, les coups, l'internement psychiatrique, les électrochocs, mais aussi la découverte du pouvoir des mots. Pour la première fois, Catherine Ribeiro se raconte, sans fausse pudeur, sans orgueil, sans remords, avec la sincérité, parfois la violence, qui ont fait le succès de ses chansons. Insoumission totale, chantée par Catherine Ribeiro, qu'elle avait écrite en 1982. Évidemment, vous êtes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître, hein, ni publicité, 89.4, et sur Romu Méninges Féministe.
Une émission insoumise, totalement.
Ah bah totalement, ça.
Pour les dernières minutes de cette émission, on va vous donner quelques rendez-vous pour le week-end prochain. Vous allez être très occupés. On vous donne rendez-vous à 11h à la librairie Violette & Co, 52 rue Jean-Pierre Timbaud, à Paris dans le 11e arrondissement, pour une lecture dédicace de deux tomes de livres qui s'appellent « Les petites sorcières » qui ont été écrits par Anne-Fleur Multon. Un des tomes s'appelle « Til dire la catastrophe ?» Ça raconte l'histoire d'une sorcière qui est la petite dernière d'une très grande lignée, mais qui n'a toujours pas découvert son pouvoir magique. Elle, son truc, c'est la bricole. Un micro-ondes cassé, un séchage en panne, hop hop, un coup de tournevis, et le tour est joué. Mais ça ne peut pas durer. Au solstice d'hiver, il est l'heure pour Tildir de quitter la maison pour explorer le monde et découvrir sa spécialité magique. C'est la tradition. Alors, juché sur son vélo mauve adoré, sa fidèle rate Jupiter sur l'épaule, la petite sorcière part pour sa première grande aventure. Le deuxième tome raconte l'histoire de Maud Champignon, sorcière très dégourdie et très bien organisée. Son pouvoir, retrouver les objets perdus. Alors qu'en arrive l'heure de l'apprentissage, Maud sait déjà ce qu'elle compte faire, ouvrir son agence de détective privé. Avec sa fidèle Pi, Watson, à califourchon sur son balai, la sorcière part à la recherche d'une affaire. Vous les découvrirez donc à partir de 11h à la librairie Violette & Co. Et puis, 14h30, rendez-vous à Port-Royal, au métro à Paris, mais dans plein d'autres villes, pour défendre le droit à l'avortement partout dans le monde. En effet, le 28 septembre, c'est la Journée internationale pour le droit à l'avortement et nous afficherons haut et fort notre solidarité avec toutes les femmes du monde entier et en particulier avec celles dont les pays ont interdit totalement ou partiellement le droit à l'avortement. Il faut dire que ces oppositions prennent des formes diversifiées. Elles peuvent être intégrales, comme à Malte par exemple, très graves, comme en Pologne, comme aux États-Unis où de plus en plus de femmes meurent parce qu'elles n'ont pas accès à un avortement. À nouveau, on peut recommencer à les compter. Et puis en France, c'est plus subtil, mais c'est en supprimant des maternités de proximité, des hôpitaux de proximité, qu'on supprime des centres IVG et que c'est ainsi que sous les auspices très négatifs d'une ministre de la Santé dont le nom m'échappe à l'instant, Roselyne Bachelot, il y a eu 150 centres IVG fermés à la suite de sa loi patient hôpital. Voilà, donc nous avons des raisons de nous mobiliser ici aussi. De nombreuses femmes, notamment pendant l'été, ne trouvent pas de réponse dans les délais. Elles sont obligées de partir avorter à l'étranger où les délais sont plus généreux. Donc manifestons samedi. Et puis, samedi et dimanche, vous pouvez aussi venir au festival Femmes en résistance aux frontières, le festival de films documentaires féministes qui a toujours été sans frontières. Les combats des femmes partout dans le monde contre l'oppression patriarcale et capitaliste et pour la préservation de la planète sont essentiels à toute notre humanité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus seulement sans frontières, mais en résistance à celles que des politiques réactionnaires et dangereuses veulent nous imposer. Le repli sur soi est toujours synonyme de recul pour les femmes et les enfants. Une nouvelle façon de nous isoler, de nous diviser. C'est pourquoi, dans cette édition du festival Femmes en résistance, encore très internationale, vous pourrez voir des films du Chili ou de l'Afghanistan, du Nigeria ou de l'Europe. Nous résistons par solidarité, par sororité, avec de formidables réalisatrices contre toutes les barrières qui font obstacle à la capacité d'être et d'agir des femmes. Et ce festival se déroule à Arcueil, à l'espace Jean Villard, un cinéma municipal. Et donc, c'est vraiment un moment de rencontre très chaleureux et de découverte de documentaires courts, moyens ou longs. Et vraiment, on en apprend tout le temps. Et puis, dernière information pour ce week-end, si vous ne voulez pas aller à Arcueil samedi soir, je vous propose d'aller au Théâtre de l'Archipel, 17 boulevard de Strasbourg, pour découvrir le nouveau CD, les nouvelles chansons de Mi Mitchell, une chanteuse amie de Radio Libertaire qui était venue chanter pour les 40 ans de la radio, une amie de Remue Ménage féministe. C'est une chanteuse toulousaine qui chante pour la première fois dans une salle à Paris. Mi Mitchell, 19h45, samedi, au Théâtre de l'Archipel. Prenez vos places. Si vous les achetez sur Internet, ça ne vous coûtera que 16,50 € au lieu de 18 € sur place. Pour aujourd'hui, Remue Ménage féministe va vous quitter. Vous nous retrouverez la semaine prochaine. Le programme n'est pas encore confirmé, mais vous aurez des femmes iraniennes ou afghanes qui seront dans les studios. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci Catherine pour les pauses musicales, la réalisation technique de l'émission. Et à bientôt.
Merci Elisabeth pour toutes ces informations. Donc avant notre indicatif de fin, Anne Edwidge qui nous chante « Dans nos champs ». On va repasser un dernier morceau de Catherine Ribeiro qui nous a quitté le 23 août dernier, L'enfant du soleil couchant. Portez-vous bien et à bientôt.
On s'est connu, on s'est regardé, on s'est parlé, on a chanté, avec l'envie de se raconter nos histoires et toutes nos idées. Mais tout ça s'était vite plié, le répertoire était pas épais. Où sont passées les héroïnes de la lutte et du quotidien? D'elles il ne reste presque rien. Hé hé ha, hé 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 ha. Eh eh ah, eh ah. Dans les champs, lorsqu'on est présente, on est souvent seul et fragile. On se lamente dans une attente, soit repoussante ou bien sublime, objet sexuel ou bien victime. Dans cet idéal libertaire, nous sommes bonnes au linge à étendre. On ne veut plus être de ménagère, de la chair tendre à défendre. On ne veut plus se laisser taire. Hé hé ha, hé 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 ha, hé hé ha, hé 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 ha. Comment faire une révolution quand dans nos imaginations, dans tous ces rôles bien genrés, nous nous retrouvons confinés et nos idées polluées. Quand on ne trouve dans nos chansons ni de guerrières ni d'héroïnes, et on vous parle même pas d'égouines, tout ce qui nous ferait rêver gamines, qui ferait rêver les frangines. Et si les chants qui nous ressemblent, on les écrivait tout ensemble. Des chants qui racontent nos histoires et disent nos rages et nos espoirs, donnent du courage et du pouvoir. Eh, eh, ah, eh, 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 ah. Eh, eh, ah, eh, eh, ah. Si on se retrouvait frangine, ça nous ferait gagner du temps. Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, qu'on en dirait 20 fois autant. Et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens. Et qu'on ferait changer les choses, allez on ose, il est grand temps. Allez, on ose, il est grand temps.